Le son des bulles sur RCN.
Bonjour, bonjour amis auditeurs, auditrices et plus encore auditeurs de RCN, audible sur 90.7 et un peu partout Facebook, YouTube, Radio Player ou encore en podcast. Nous sommes dans l'émission consacrée uniquement à la bande dessinée, 100% bande dessinée, le son des bulles, qui réunit une équipe de 6 animateurs volontaires, curieux, toujours audacieux et complémentaires dans leurs approches. Ainsi, nous accueillons autour de cette table et de ce micro la grande Francine pour des actualités toujours archi pointues et des interviews rares. Bonjour Francine.
Bonjour à tous.
Ça va ?
Bonjour Francine.
Ouais, contente de reprendre.
Ah oui, ça faisait longtemps, on n'a failli pas se reconnaître. Nous avons ensuite Joris avec son monde de manga dont la variété me fascine à chaque fois. Bonjour Joris.
Bonjour Françoise.
Nous sommes sous la surveillance de Jean-Luc, à la technique. Autant en parler tout de suite, comme ça s'est fait. Olivier, pour des BD qu'il cherche et qu'il découvre et qu'il partage. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Nous avons aussi David, pour un monde de cuir, de muscles, de testostérone, d'univers parallèle, les comics en tout genre.
Tout à fait.
C'est ça, hein ?
Ah oui, c'est ça. Bah, je ne ressemble absolument pas à mes modèles. Mais
moi aussi, on va t'en trouver. Bonjour David. Bonjour. Nous attendions Charles, notre ancêtre et notre mémoire, pour des BD du siècle d'avant. Mais il a dû être coincé dans un espace-temps, là, parce que je ne le vois pas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je crois qu'il est absent.
Il pédale quelque part, je crois.
Oui. Ah oui, ouais. Oui. On ne dira pas dans quoi. Voilà, c'est trop facile. Et moi-même, donc Françoise, pour, m'a-t-on dit, un regard décalé sur cet univers, sauf que moi, je présente aujourd'hui. Attention, on rigole plus. Donc voilà, on est en pleine forme pour cette nouvelle saison. Oui. On a bossé tout l'été pour vous préparer des thématiques, des musiques, voilà. J'espère que personne ne me contredira. On espère vous trouver en pleine forme et impatient surtout de nous écouter, parce que ça doit faire, je calculais, 6 ou 7 ans qu'on existe, c'est ça ?
Ah ben dis donc.
Donc on doit avoir, hein, ça doit être ça à peu près.
L'émission date de 2018,
je crois.
Ah ben ça fait 7 ans. Bon anniversaire.
Voilà. Ouais.
Mais indépendamment de tout ça, aujourd'hui, on est assez fiers et surtout très heureux d'accueillir, alors attention, une des deux lauréates régionales retenues pour le concours national de la création sous l'égide des Crous. Ouais, oui. Donc, Nolwenn Barnier.
Bernier.
Bernier.
Bernier. Bernier. Ah bah voilà.
Ah, bonjour bah, voilà.
Ça commence.
Bonjour
Bernier et Nolwenn.
Nolwenn, ça marche. Ça. Ouais. Nolwenn Bernier, donc pour une BD intitulée Malgré tout, et qu'elle va nous présenter ainsi que le festival. Oui. Bonjour Nolwenn.
Bonjour à tous. Alors j'ai participé au Crous BD dont la thématique c'était le courage. Donc pour moi le courage c'était plutôt un courage discret, silencieux. Donc j'ai eu partie sur le réveil du matin qui est parfois... On se décide ou pas de se lever. Et c'est toujours parfois un moment de blocage, ce moment-là. Donc j'ai fait appel un peu à mon vécu, un témoignage, en parlant également des crises majeures, que ce soit écologique, avec l'effondrement de la biodiversité, la fragmentation des habitats, le dérèglement climatique... ou des crises politiques avec des conflits, on a de plus en plus des méfiances, de la méfiance envers des institutions, par exemple aussi. J'ai parlé aussi des crises économiques et financières avec donc les précarités, la pauvreté, les inégalités, et tout ça dans un cauchemar. plein de crises qui se combinent et qui donnent en fait cette ambiance angoissante, anxiogène.
Et tout ça sans texte, quoi. Du coup, t'as uniquement en image, hein, qu'on c'est précise quand même. Là, l'ensemble des planches sont très.
Et sur cette planche. Ah,
sur cette planche.
C'est la contrainte. C'est ta ça, thématique et cette planche.
Oui, oui. Parce que à vous écouter, on a l'impression que c'est un album qui fait 100 pages, quoi, presque.
Ouais. Tout non, ce
que
non, vous avez évoqué. Okay. C'est
un condensé. Hein,
c'est un condensé. C'était la contrainte.
D'accord.
Et si vous voulez le voir, on peut le trouver sur Facebook, Le Son des Bulles, parce que Olivier, tu nous as mis la bande dessinée, j'ai pu la consulter.
On l'a mis en ligne. On a oublié de poster.
C'est ça. Merci pour l'autorisation, d'ailleurs.
Ouais. Merci à vous.
Et ça s'appelle, le titre alors ?
Malgré tout.
Malgré tout.
Oui. Malgré tout, il faut se lever.
Malgré tout, vous y allez.
Oui.
Faut y aller.
Allez. Bah, faut prendre son courage à deux mains, comme on dit.
Oui, voilà, c'est un mot qui, pour moi, résonne vers la persévérance, une certaine continuité, une. Et surtout à ne pas se décourager malgré dépression ou toutes ces crises.
La réalité est là, en fait, finalement. Elle est là, présente, et tu peux pas... C'est pas un rêve. Quoi. Le rêve, c'est une partie, mais la réalité est bien là, il faut y faire face.
C'est ça. D'accord. Alors, j'ai proposé sous forme de rêve, parce que c'était surtout une manière de montrer que le monde extérieur influe sur le monde intérieur. Mmh. Et c'est sur ça, en fait, que j'ai développé... que j'ai représenté en fait ces idées-là.
Effectivement, on voit aussi, tu avais des livres aussi que tu avais mis en tout petit, il faut regarder un peu les planches.
Oui.
Il y a des livres références, je ne sais pas, qui sont à côté du lit, etc., que tu as discrètement glissé.
Glissé, oui, en référence dès la première page. Donc il y a par exemple Vivre avec le trouble de Donna Haraway.
Oui.
Donc là, j'ai aimé sa façon de penser sa vision du monde sur vivre avec le trouble. Donc, ne pas forcément essayer de sauver ou de purifier la planète, mais plutôt être dans cet état d'esprit de cohabiter, en fait, avec un monde qui, certes...
va se transformer, quoi.
Qui se transforme, mais il faut, en fait, s'adapter. Savoir s'adapter.
Alors, oui, parce qu'il se transforme, on y habite aussi, on y est.
Oui.
On y est
acteur. De toute façon, on pourra changer ce qu'on peut, mais il faut vivre avec ce qui est déjà transformé. Quoi.
C'est ça, oui. Et elle met l'accent aussi sur des notions comme les relations interespèces, la solidarité, la co-création.
Oui.
Donc, il y avait par exemple la notion de la famille qui, pour elle, pourrait s'élargir vers, par exemple, des liens de parenté avec des micro-organismes, des plantes, des animaux, voilà.
L'infiniment petit rejoint...
C'est ça.
C'est presque quantique, hein, une certaine sorte de chose,
quoi. Mais c'est, avoir dans sa culture le lien avec le vivant.
D'accord. On peut dire que tu es aussi... Tu viens des Beaux-Arts, c'est ça, en fait, hein, cursus. C'est important de savoir que ton cursus, tu n'as pas encore fini tes études, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc là, je vais rentrer en cinquième année. Donc je suis à l'École nationale supérieure d'art et de design à Nancy.
D'accord.
En option communication. Donc je fais principalement du graphisme, de la photographie, un petit peu d'illustration. Non, en tout cas, pas de BD.
Pourquoi pas la BD? Parce que après tout.
La BD.
Pourquoi présenter ça
au concours? Parce que c'est vrai qu'il y a la photo en fait. Il y a aussi le secteur photo dans le concours.
Il y avait le secteur photo, mais je me suis concentrée plutôt sur la BD parce que je voulais. Enfin, c'était un nouveau défi pour moi.
Est-ce que tu en as parlé un peu à tes enseignants, tes profs, pour avoir un avis, est-ce que tu t'es peut-être servi de ce projet-là pour quelque chose? Non, mais c'est intéressant de savoir aussi. Voilà, c'est pas pour être polémique, mais c'est pour dire comment on accueille ça auprès d'une étudiante de quatrième année, quand même, qui a une préparation de mémoire bientôt.
Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas eu de retour de mes...
Discret.
Voilà. J'ai fait... En fait, je me suis pris un peu à la dernière minute pour faire la BD. J'avais 4 semaines.
Ah oui.
Voilà, 4 semaines, un mois pour faire une BD, dont 3 semaines intenses où vraiment j'essayais de trouver, storyboarder, scénario, avoir de l'inspiration. Et une semaine, sachant que j'étais en stage en plus, donc j'étais plus à l'école pour la nuit taffer dessus.
D'accord.
Ah oui,
c'était vraiment
donc c'était sous pression. Bon, le thème
comme un dessinateur de bélier, quoi, finalement.
C'est pour ça que la première planche, c'est dans le lit.
Dans le lit, voilà.
Mais c'est surprenant d'ailleurs, parce que quand on voit le lit, quelqu'un qui dort, ça envoie quelque chose de tout doux. Et après, c'est plus violent, quoi. Et ça finit aussi sur une planche toute douce, un peu plus anxiogène quand même, parce que c'est vide.
C'est vrai.
Alors pourquoi aussi le choix des deux couleurs? T'as du bleu et du jaune. T'as deux teintes qui viennent pour compartimenter, on va dire, les planches une sur deux.
Oui, voilà, ça semble de signalétique. Une couleur pour le monde extérieur, la réalité.
Okay.
Et l'autre, c'était pour faire la transition avec l'onirisme, le rêve. Voilà, le monde intérieur.
Tu aurais envie de développer un peu plus loin, maintenant que le concours est passé, mais est-ce que ça t'a pas donné un élan de dire, tiens, je vais peut-être faire quelque chose de plus perso, je vais prolonger cette idée, retravailler le personnage?
Oui, parce qu'on connaît des maisons d'édition, nous.
Ok.
Est-ce que ça faisait partie de tes desiderata, pourquoi pas, de travailler plus tard dans la BD ou de collaborer avec des
dessinateurs. Bah, ça me tente, mais enfin, je suis un peu, enfin, je connais pas trop encore les codes de la BD, donc je suis un petit peu timide sur ces points-là. Enfin, bon, il faut que je travaille encore. Encore dessus.
D'accord. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que vous ne connaissez pas encore assez votre première bande dessinée, on va dire, même si elle fait 7 pages. Mais il y a tout dedans, nous, on a trouvé, hein, quand on a ouvert la planche là, pour le jury avec David, on s'était croisé un jour, on a dit « Ah, t'as vu le truc, il y a un truc qui est formidable ». Alors je lui dis « Mais la planche bleue ?» Oui, la planche bleue. Puis au jury, c'était pareil. Alors, comment ça se fait que vous avez quand même, vous maîtrisez quand même certaines parties de la narration,
de la communication, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est, voilà, du storyboarding, enfin voilà, des choses qui sont peut-être en relation directe avec la BD.
Peut-être, je pense que la composition, enfin, au début, les cases, ça me faisait peur, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés au début pour faire la BD. Donc, il y avait des questions de dialogue, donc que j'ai pas fait parce que, bah, ça, en fait, la situation ne s'y prêtait pas. Ouais. Enfin, en tout cas, les images étaient assez impactantes. Ensuite, par rapport aux cases, j'ai essayé de voir en fait à comment les utiliser. Voilà, les espaces, enfin les cases. Pour moi, je les vois comme ça peut être des compressions, ça peut être, enfin ça donne des émotions en fait. Et j'ai joué sur ça. Enfin, c'était peut-être intuitif ou...
Ouais, peut-être, oui. C'est... Oui. Connaissant pas les codes, t'as trouvé une modularité. Enfin,
voilà, un modèle, c'est ça. De travail. Et aussi, peut-être, avec mes compétences de design graphique, la mise en page, je pense que ça m'a aidé. Mm-hmm. Trouver un rythme visuel, un séquençage pour ma narration.
Ouais, ok. Ça fonctionne, en tout cas.
C'est, et vous, c'est bien. Vous vous êtes inspiré de quelqu'un ou...
J'ai lu, c'est Fabrice Naud.
Ah oui.
Oui, le journal intime de Fabrice Naud. Donc j'apprécie. Donc c'est un récit autobiographique qui a une représentation graphique très réaliste, enfin épurée aussi, mais qui montre en fait la réalité de manière brut.
Cru un peu comme
oui.
ça.
Oui. Et j'ai assez bien aimé d'accord, donc sa c'est... façon de
en
faire.
En général, tu lis, t'es lectrice de BD, enfin, j'imagine, oui, enfin, t'es fan de BD, t'as
pas
beaucoup
du
BD
tout.
Chez toi ou pas du tout tes parents lisaient peut-être, je sais pas, il y a peut-être.
Oh, c'était avant. Ouais. Ouais, c'était dans l'enfance plutôt.
D'accord, enfin, c'est assez lointain et anecdotique, on va dire.
Mais enfin, j'essaie de m'y remettre.
D'accord.
Voilà, il y a par exemple aussi Jérémy Moreau qui a fait la BD Alite. Donc
oui.
Ça, c'est
ah, oui.
Ouais, magnifique, avec des aplats de couleurs. Enfin, c'était très contemplatif aussi. Donc, il parle sur l'environnement, enfin, l'Alite accoucheur, un petit amphibien. Et ses péripéties, voilà, pour survivre
dans ce monde.
Dans ce monde.
Dans ce monde, oui.
Mais vous écoutez, c'est plaisant parce qu'on perçoit. Enfin, moi, je perçois toute la technologie, toute la technique, toute la pratique, toute l'observation, l'inspiration qu'il faut et les difficultés. Parce que quand on lit une BD, ben, c'est des dessins, quoi. Simplicité, voilà, en première approche. Et après, en vous écoutant, et on entre dans un autre monde de créativité, d'imaginaire, de contraintes, toujours de contraintes, effectivement. Et
oui.
Je trouve que c'est hyper intéressant de vous écouter comme ça.
Bah, merci. Et également, quand j'ai dessiné cette BD, pour me mettre un peu dans l'ambiance, j'écoute souvent des musiques, donc Aurel San, Stromae, Suzanne, voilà, tout plein d'artistes comme ça, qui parlent des conditions humaines, des mots de la société.
D'accord. C'est quelque chose que tu as conçu totalement de manière tout seul dans ta chambre. Dire, tu ne l'as pas partagé à un moment donné, tu ne l'as pas montré à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui est né de A à Z dans ta chambre. Quoi.
Dans
c'est
ma chambre, oui.
Okay. Ouais, c'est intéressant de savoir que là, tu as conçu ça sans le montrer à qui que ce soit, sans avoir un regard, un retour, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose.
Alors, pour remettre un mot sur le concours, hein, c'est un concours qui est organisé par les CROUS de France. Il y a d'abord des recrutements régionaux. C'est-à-dire que vous postulez alors les différentes thématiques, hein, bande dessinée, musique, danse, film court, voilà, donc notamment la BD. La BD, c'est sous contrainte. Donc, il y a un recrutement, une sélection régionale postule qui veut, j'imagine, il n'y a pas de prérequis à part la contrainte. Et les 7 pages. Voilà, étudiant.
Étudiant.
Et étudier. Voilà, ça peut aider aussi. Et après, donc, il y en a 2 qui sont sélectionnés. Vous avez été 2 à être sélectionnés pour participer au concours national. Au mois d'octobre, c'est ça?
Non, sélectionné pour le concours régional.
Alors, national, là vous êtes...
Oui, là, je vais être en phase nationale, mais du coup, il y a plein d'autres...
Il y a d'autres régions qui sont effectivement en concours avec les sélectionnés.
Et c'est au mois de septembre, c'est ça?
C'est septembre,
oui. Oui, à peu près le 10 septembre.
Oui.
Donc, oui.
On croise les doigts.
Oui.
Oui, oui, oui. On va faire tout ce qu'on peut.
Oui, parce que, Françoise, peut-être tu le diras, mais il y a des prix du concours national.
Oui, il y a des prix, effectivement. Alors, en fonction des CROUS, il y a des prix financiers qui peuvent aller de 200 à 400 euros.
Mais voire plus. Le premier prix, c'est 2000 et ça descend à 500 pour le troisième, je crois.
Oui, mais ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, c'est plus humble, c'est plus petit.
C'était un petit bon pour le hall du livre.
Voilà, c'est ça. C'est pas, faites pas ça pour les finances, on va dire. Et après, donc, en concours national, il y a des prix. Alors, non seulement il y a le prix, effectivement, qui peut être de 2000 euros pour le premier, mais il y a surtout, putativement, un accompagnement pour la diffusion de l'œuvre, ou alors des entrées et puis des liens qui sont avec Angoulême ou des maisons d'édition. Donc, c'est aussi une marche, un tremplin, dirais-je, pour pouvoir parvenir à autre chose pour continuer.
C'est
pas que 200 balles, quoi, je dirais. Même si c'est bien 200 balles.
Les lauréats du concours national sont exposés au moment du SOBD à Paris, etc.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est bien.
Et au festival d'Angoulême.
Très bien.
Alors, ça va passer peut-être de votre lit à une exposition.
Au tapis rouge de la BD, au moins.
Juste, nous voudrions remercier Nicolas Scheil. Qui organise ça au niveau du CROUS, au niveau de la Lorraine, et qui fait un travail formidable pour organiser le jury, pour
répartir RCN,
les planches, et voilà, qui nous invite, les Philactères et RCN, et d'autres membres de jury, des spécialistes de la bande dessinée.
Alors, les Philactères, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc David, sa maison d'édition.
Voilà,
Olivier, alors vous étiez membre du jury tous les deux, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Mais on n'était pas du même bord. Nous, moi, j'étais sans des bulles, David, Philactère.
Philactère, voilà, ça c'est sûr.
Il a changé de casquette.
Je ne connaissais pas,
tu m'étonnes. Enfin, voilà. Alors moi, ce que j'aimais, moi qui adore la peinture, vous avez des plissés dans les draps. Je sais que c'est hyper compliqué à rendre les plissés.
Ah ouais.
Et alors là, il y a des tableaux avec... Enfin, moi, j'étais admiratif du dessin. Je ne sais pas comment baptiser ça, je ne veux pas vous offenser, mais du dessin, du rendu que ça donnait. Et tout ça pour un courage discret et invisible, parce que c'est vrai, quand on a un gros traumatisme et tout, la chose qui nous emmène, c'est que le matin, le soleil se lève et qu'on est obligé de se lever. Et ça, vous l'avez bien traduit. Voilà.
Bravo.
Donc, vraiment, bravo. C'est
bravo, ouais,
un vrai
bravo,
plaisir.
Merci.
Un petit mot à rajouter? Quelque chose que vous n'avez pas dit?
Vous pouvez dire vive le son des bulles?
Oui.
Vive le son des bulles.
Merci, Noël. Ben, nous, on dirait vive Nolwenn Bernier. Nolwenn Bernier, on peut la trouver.
Merci,
aussi.
Nolwenn. Merci.
Ah oui, merci. Bah, vous restez de toute façon.
Ah, oui.
Vous intervenez, vous commentez quand vous voulez, hein, ça c'est sûr. Donc la sélection sera au mois de septembre, croise les doigts, et puis ça va aller. Et alors, comme on est dans la jeunesse et l'actualité, je vais passer la parole à Francine. Ça va être comme ça.
La jeunesse.
L'actualité, le globe-trotter des festivals, qui a un blog en plus, on n'en parle jamais, mais peut-être qu'un jour on en parlera ou tu nous en diras quelque chose. Si tu veux, enfin voilà, ce sera l'occasion effectivement. Donc Francine, dis-nous toi, qui, que quoi, dans où, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu nous as choisi?
Bon, bah, c'est la rentrée, hein, beaucoup de choses à la rentrée, alors beaucoup de choses dans les nouvelles parutions, mais c'est pas là que je vais m'arrêter aujourd'hui, je vais plutôt m'arrêter sur ce qui se passe à Nancy. Alors la première chose,
Francine,
c'est l'expo Le Fred Touron.
Ah oui, non.
Alors pour commencer l'exposition Le Fred Touron, qui se tient à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc, du 2 septembre au 25 octobre, et qui présente 72 cadres format A4 de Crobar, accompagnés d'une phrase ou légende. Alors par exemple, hein, pour tout vous dire, bah, le rire inclusif, hein, A-E, A-E, A-E. Alors vous pourrez également repartir avec la reproduction sous cadre du dessin qui vous aura tapé dans l'œil, ou encore le catalogue de l'expo pour la modique somme de 9 euros. Alors ça serait vraiment dommage de se priver. Alors l'expo s'intitule « Avant ». Ça, c'est simple. Mais alors, je vous laisse savourer le sous-titre. Velléité exploratoire d'un Nantais après.
Mmh. Nantais après. D'un Nantais après, ouais.
Donc, c'est à la Galerie Lillebonne, hein, du mardi au samedi, de 14h à 19h jusqu'au 25 octobre. Donc. Et le vernissage, lui, aura lieu demain, vendredi, à 18h. Alors ensuite, deuxième...
Alors le Fred Touron, c'était un complice de Charles, notre absent du jour, c'est ça?
Bah, c'est surtout un dessinateur du Canard Enchaîné. Hein, c'est un des dessinateurs nancéens.
Je le connais depuis que je suis toute petite.
Alors deuxième chose, c'est la sortie de Tout d'un coup ou presque. Alors après Baru et son catalogue Déraisonna pour une exposition fantasmée, c'est au tour de Jean-Claude Denis de rassembler dans une anthologie intitulée Tout d'un coup ou presque un millier d'illustrations, dessins inédits, esquisses aux éditions Le Pythagore qui, rappelons-le, font partie du paysage de notre région puisqu'elles ont été fondées en 1990 par un libraire chaumontais. Alors, pour savoir un peu plus sur ces illustrations, écoutons Jean-Claude Denis.
Il y a presque un millier d'images qui sont pour certaines inédites, certaines très modestement tirées de cahiers de brouillon, presque on pourrait dire, des dessins de téléphone qu'on fait pendant qu'on appelle quelqu'un en pensant à autre chose, mais aussi des grandes images, des affiches, des images qui ont servi d'illustration dans la presse, pour des romans. Et tout cela depuis les années 70-80.
Alors, outre ces illustrations du Grand Prix d'Angoulême 2012, soulignons-le, l'album comprend des préfaces signées par des amis dessinateurs, compagnons de longue date. Alors, Baru, Charles Berberian, Florence Sestac, Jean-Pierre Gibras, Lou Stahl, Franck Margerin et Martin Véron. Et également un long entretien de 15 pages avec Stéphane Godefroy, libraire à la parenthèse. Alors, pour... le lancement de cet ouvrage majestueux, la parenthèse organise non pas un, mais deux événements. Une séance de dédicace, bien sûr, ce samedi 6 septembre de 15h à 19h, et une expo-vente d'illustrations originales, dont certaines sont tirées de cet album. Alors, écoutons Stéphane Godefroy au sujet de l'exposition.
Je crois qu'avant de déballer sa sélection de dessins, je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'expo était une expo importante, une véritable rétrospective de 50 ans de carrière. Et c'est extrêmement émouvant de regarder tous ces dessins les uns après les autres qui balayent 50 ans de carrière. Et c'est, à ma connaissance, alors peut-être que Jean-Claude me contredira, mais la première véritable expo rétrospective qui balaye depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui avec ses derniers dessins. Il y aura plus de 100 dessins qui seront accessibles au public durant tout le mois de septembre.
Alors pour clore ce chapitre, j'ajouterai que cette anthologie existe en deux versions, la première à 40 euros, la seconde étant une édition originale tirée à 300 exemplaires comprenant une sérigraphie de 20x30 cm numérotée et signée par Jean-Claude Denis qui, elle, vaut 59 euros. Le livre sur la place maintenant, parce que pour terminer l'événement de cette rentrée, c'est quand même le livre sur la place où nous attendent 61 auteurs et autrices de BD pour des séances de dédicaces. Alors il y a les dédicaces bien sûr, mais il y a surtout ce qui pour moi est le plus intéressant, les rencontres. Alors petit récapitulatif dans l'ordre chronologique. Le vendredi 12, de 11h à 11h45, remise du prix Grand Est au forum Bernard Pivot. Alors, le lauréat de cette année pour la catégorie BD est Grégoire Carlet pour L'Olière et l'Araignée, paru dans la collection Air Libre chez Dupuis. Ensuite, l'après-midi, de 14h30 à 15h30 à la résidence autonome d'Onop. Donc, c'est une rencontre avec Florence Sestac pour Le démon de mamie ou la sénescence enchantée, donc qui est paru chez Dargaud. Alors à savoir que pour celle-ci, il faut réserver à l'avance. De 14h à 15h, c'est bizarre parce que c'est un vendredi, normalement les enfants sont à l'école, ça a repris. De 14h à 15h au Musée des Beaux-Arts, on a Jefferson. Donc à partir de 9 ans, lecture dessinée du roman de Jean-Claude Mourlevat qui raconte les histoires du petit hérisson Jefferson accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis.
Ils iront avec leur classe.
Ils iront avec leur classe, ouais. Mais ne pourront pas y aller en famille, c'est mis dans le côté famille.
Ah mince.
Le samedi, alors deux grands événements, le samedi soir de 18h à 19h au Musée des Beaux-Arts, c'est la rencontre Île déserte avec Antoine Decaune et Xavier Cosse. On en avait déjà parlé, c'était mon gros coup de cœur du mois de mai, donc à ne pas rater. Et ensuite de 20h30 à 21h30, le concert dessiné La solidité du rêve avec Arthur H. et Alfred, et ça aussi j'en avais déjà parlé. Voilà, donc à ne pas rater non plus. le dimanche 14. Alors, Petit Palais de 7 ans à 10 ans, on a un atelier BD avec l'autrice et illustratrice Violette Weiss pour la réalisation d'une planche de BD. Alors, Violette Weiss, entre autres, c'est les Brioches et Tartines, la série des Brioches et Tartines. Ensuite, l'après-midi, rencontre au Musée des Beaux-Arts, Croire au Merveilleux. Alors, on a Grégoire Carlet pour Le Lierre et l'Araignée et Christian Durieux pour Le Jour avant le Bonheur, qui est paru, lui, chez Futuropolis, qui est une magnifique adaptation avec toute l'élégance de Christian Durieux, du roman de Derry De Luca. Ensuite, Salle Poirel. Alors, Salle Poirel de 14h à 15h30, rencontre très intéressante aussi et qui est en thème avec, qui est en lien avec notre thème puisque c'est la rencontre Océan avec Isabelle Autissier Zelba pour le livre qui va sortir, je crois, le 13 septembre, Une bouteille à la mer chez Futuro. Et puis aussi Stéphane Melchior pour La longue route, hein, qui raconte, qui est sorti par contre chez Gallimard BD et qui raconte justement l'histoire en 1968 de la première traversée en solitaire de, je ne sais plus comment il s'appelle, qui aurait dû gagner et qui était gagnant et qui a continué, qui n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Très très belle histoire aussi. Ensuite, bon, on a deux rencontres qui se passent en même temps, alors on va falloir choisir, hein. Donc c'est de 16h à 17h au Musée des Beaux-Arts, il y a la rencontre rupestre. Alors avec Edmond Baudouin et David Prudhomme, hein, qui sont allés peindre dans les grottes, etc. Et puis au Muséum Aquarium, on a lecture dessinée Bête de sexe avec Mine Tranui et Jules. Donc voilà, hein, qui raconte la vie très privée des animaux. Donc je ne sais pas vous, mais moi, je crois que je vais aller au Musée des...
Mais
je crois
que j'ai déjà fait aquarium. Des conférences là-dessus.
Voilà. Alors évidemment, vous pouvez retrouver tout ça dans le programme. Voilà. Voilà, voilà.
Alors, pour info, le Fred Touron, je reviens, je rétropédale, je crois qu'il a sa fille qui fait des dessins dans les jardins de la Citadelle.
Ah bah oui, Zoé Touron, elle ne fait pas seulement des dessins, elle fait aussi des BD.
Elle fait des BD, mais il y a une planche magnifique. Quand on montre au jardin de la Citadelle, et on voit effectivement, voilà, ça doit être génétique. Bah voilà. Bon, on vous souhaite la même gloire que tous ces gens qui sont là, Nolwenn. Attention, c'est le début de la première
dans
marche.
Dans deux ans, on vit sur la place, Nolwenn.
Et on sera là. Moi, je suis bénévole au livre sur la place cette année.
Il y aura déjà David, hein,
peut-être. Bah, voilà.
Oui, le vendredi.
Bon, après toutes ces informations toujours denses, mais voilà, on va faire une pause musicale avec Aurel San, qui est né sur Internet. Comme quoi, les réseaux sociaux, des fois, ça a du bon.
Miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique.
Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens. Comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
18h-19h, le son des bulles sur RCN.
Bon ben c'est quand même un texte bien cinglant, et même si, comme on dit, l'opinion n'est pas, une information, je trouve qu'il n'a pas tout dit. Faux, il n'a pas tout dit. Donc merci, c'était une idée de Nolwenn. Merci Nolwenn, beaucoup. Et maintenant, eh ben, place aux chroniqueurs, avec des BD choisis sous contrainte, comme on fait des fois. Cette fois-ci, c'est les quatre éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu...
Et l'air,
et l'air,
hein.
L'air
on fois. L'oublie. Hein.
Oui, non, mais j'arrive pas avec ça. Alors, il faut savoir, j'ai cherché, c'est un concept philosophique occidental. Objet de débat, c'était avant Ésope que ça existait déjà. On pensait que tout était fait à partir de ça. Mais au fur et à mesure, on a découvert la lumière, l'électricité, le vent, la radioactivité. Donc, il y a des tas de débats scientifiques autour de ces quatre concepts. Donc, je vais voir, nous allons voir, mesdames et messieurs, comment les chroniqueurs du jour vont s'en sortir. Oui. Avec le tout premier, et ben voilà, un monde où on se bat pour des terres, des pouvoirs, la force et la justice. Justice qui se mêle. Je vais passer la parole à David et les quatre fantastiques.
Eh oui.
Voilà.
Ah, vous allez vous dire, quel est le lien avec les quatre fantastiques? Bah, évidemment, il apparaît assez clair. Donc, je vais vous parler donc, de la plus grande équipe de super-héros Marvel. Laissez-moi vous présenter les quatre fantastiques. Hein. Je ne vais pas vous faire la chanson.
Si. Non. aussi.
Attends, aussi, vas-y. Vous l'écouterez tout seul. Créé par le scénariste Stan Lee et dessinateur Jack Kirby en novembre 61, rencontrant un succès colossal, il ouvrira les portes à la création de nombreux autres héros, équipes incroyables, les Avengers, les X-Men. N'oublions pas bien sûr Steve Ditko hein, dans ce trio créatif. Pourquoi quatre héros? Eh bien parce que Stan Lee aimait donner des initiales identiques à ses créations. Fantastic Four. Il donnait par exemple Peter Parker pour Spider-Man, Bruce Banner pour Hulk, Matt Murdock pour Daredevil, ou alors Scott Summer pour Cyclope dans les X-Men. Donc c'est mémotechnique, on s'en souvient bien. FF, Fantastic Four. Ah ouais. Fantastic Four désigne le groupe ainsi que la série dédiée qui fut à ce jour la plus longue série dédiée éditée par Marvel et s'achève après 50 ans de bon loyer service en février 2011. Mais... pas d'inquiétude. La série est reprise un mois après sous le nom de Fondation du Futur et reprend certains personnages de manière indépendante. Et puisque c'est une histoire de droit de rachat, etc., c'était un peu compliqué. Les quatre fantastiques vont disparaître des radars pendant un certain temps, pour les besoins du cinéma. Les quatre fantastiques arrivent en 61 au bon moment, car Marvel, précédemment Timely, est sur le point de couler. Hein, le titre FF va donc sauver la maison d'édition. Une nouvelle méthode de travail instaurée par Stan Lee lui-même, qui consistait à confier au dessinateur le synopsis, laisser le dessinateur se débrouiller pour développer et découper les histoires. Ça va. Stan Lee arrivait ensuite pour remplir les bulles. Ouais. Ok, d'accord. Marvel finira donc par rivaliser avec son concurrent des DC Comics et même le dépasser les années qui suivent. Mais qui sont les Fantastiques ? C'est ça qui nous intéresse quand même. Exposés à une dose massive de rayons cosmiques lors d'une mission spatiale orchestrée par le scientifique Reed Richards et ses compagnons, Suzanne Storm, ou sa fiancée, Johnny Storm, le frère de Suzanne, et Ben Grimm, le meilleur ami de Reed et pilote de l'avion, à leur retour sur Terre, ils acquièrent des pouvoirs surhumains. Incroyable. Reed Richards, Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine et la chose, on les connaît tous bien sûr. Hein. Sous le nom de FF, les quatre Fantastiques, quatre amis, une famille, luttent contre divers périls, des super-vilains, dont l'un des plus célèbres, le Docteur Doom, que j'avais déjà chroniqué, un Némésis, contre des extraterrestres, des créatures d'autres dimensions qui menacent la Terre, bien sûr, hein, toujours. Petite anecdote, on dira aussi souvent que Jack Kirby, qui bossait avant pour DC Comics, s'est inspiré d'une autre équipe qui avait pour créer les Fantastiques. Et cette équipe s'appelait les Challengers de l'inconnu. Ah. Il y a quatre personnages, une femme aussi, etc. Bref. Bon, c'est pas approuvé, mais bon, on le dit dans le milieu.
Ça fait bien.
Voilà. J'ai une question. Pourquoi l'homme de pierre, on l'appelle la chose ?
Ah bah, j'y viens. Ah, oui. J'y viens. Oui, oui. J'y viens. Chaque origine des personnages formant l'équipe ont une similitude avec leur personnalité, leur caractère et les quatre éléments dont nous allons parler aujourd'hui, qui sont le feu, l'air, l'eau
et la terre.
Le corps de Reed s'étend comme un caoutchouc, comme sa volonté à étendre son savoir. Il est à l'origine de plusieurs inventions, des cours, des lieux inédits, des civilisations étranges. Et il est le leader, bien sûr, de l'équipe, capable de résoudre tous les problèmes malléables et fluides comme son génie, l'eau. Ah, oui, vous aurez deviné. La femme invisible, pouvant créer des champs de force, se rendre également invisible. Jeanne Storm ou Suzanne Storm en BO. Suzanne Storm SS.
Bravo.
C'est pédagogique, je sais. Frédéric, et le personnage central de l'équipe, à la fois épouse, sœur et muse, elle est réservée, protectrice pour sa famille. Elle est l'air. Il y a invisibilité, l'air,
protectrice pour sa famille,
les choses, créer des champs de force. La torche humaine, le feu, bien sûr. Oui. Johnny Storm est le frère de Jane. Un gamin un peu tête brûlée qui apprend la vie d'adulte au fil des aventures du groupe. Un jeune homme idéaliste. Un peu cramé. Et enfin la chose, Ben Grimm, un râleur d'une force titanesque, protégé dans sa gang de pierre. C'est un individu chaleureux, hein, quand même, faut pas croire. Il est un peu le personnage de la bête, mais incapable de retrouver sa forme humaine, hein, bien sûr. Il n'en voudra d'ailleurs jamais trop à Reed Richards de l'avoir un petit peu, c'est à cause de lui qu'il est devenu une espèce de monstre pierre comme ça. Hein. Ça, c'est un bon copain quand même.
Mais en anglais, il s'appelle comment ? Parce que c'est
The Thing,
la chose.
The Thing.
Ah ouais, oui, aussi.
Comme le titre du film de Carpenter.
Ouais. D'accord.
Sauf que là, c'est pas le même truc. Hein.
Il faut du poil à pierre.
Oui. Et donc là, c'est la terre dessus.
Allez. C'est Jean-Luc qui nous met la musique.
Merci Jean-Luc, parce que j'ai pas le casque. Merci Jean-Luc. Ces pouvoirs cosmiques ont été des révélateurs de leur moi profond, de leur personnalité et des ressentiments de ce qu'ils perçoivent d'eux-mêmes. Ben se voit comme un monstre, Suzanne culpabilise du fait de sa responsabilité. Certains devront apprendre à se canaliser et d'autres à accepter tel qu'ils le sont. Donc c'est intéressant de voir que les éléments, finalement, ça rejoint les personnalités. C'est le hasard qui a fait que ça parle des éléments, mais c'est plutôt leur personnalité qui a généré leur pouvoir. Alors, pour le petit conseil d'écriture, les Fantastiques ont vécu des histoires cosmiques et relationnelles incroyables durant ces 50 années d'histoire, hein, nous offrant les vilains les plus charismatiques de l'univers Marvel, Galactus, Silver Surfer, l'Homme Taupe, et j'en passe, et des meilleurs. Docteur Doom en particulier, je reviens donc à la chronique. Oui, la chronique. Je vais m'étouffer. Excusez-moi.
Tu manques d'air.
Donc,
allez, on y va.
Alors, ça, bravo. Vous pouvez découvrir la nouvelle série des FF, FF Forever, donc c'est celle-ci.
Allez, vas-y.
À l'époque, j'ai acheté 10 euros, mais c'était la promo. Bon. Dessinée donc chez Panini, sortie en mai 2019, écrite par Dan Scott et dessinée par la dessinatrice Sarah Piccelli, je dois préciser, comme dessinatrice sur les 4 Fantastiques, c'est plutôt chouette. Une série Marvel 2-in-1 aussi qui est à suivre dans le même topo, alors que je n'ai pas là, que j'ai pas un budget illimité non plus. Les Fantastic Four 1, 2, 3, 4 par Jay Lee, une collection 20 ans de chez Panini, un grand classique chez FF, où on donne à Suzanne Storm une relation extra-conjugale avec le maître des mers, le maître des mers, Namor. Eh oui,
c'est pas
madame, quelle honte.
Oh là là.
Peut-être est-elle hypnotisée par le séduisant Namor, on ne sait pas. La série Ultimate Fantastique en omnibus, c'est bien sûr les intégrales fantastiques 61-62, encore disponibles avec Kirby et Stan Lee. Mais je voudrais parler vite fait comme de Fantastic Four, l'histoire d'une vie, de Mark Russell et Son Isaacsy. C'est très intéressant parce qu'on suit les fantastiques des années 60 et ils ont vieilli en même temps que leur public. Alors qu'en temps normal, les héros ne vieillissent pas ou vieillissent très lentement. Là, c'est très intéressant parce que depuis les années 60...
Non plus on vieillit pas, qu'est-ce que tu dis ?
Oui, depuis 2018, on est même.
On vieillit pas. On sera toujours là dans 50 ans. Donc là, les fantastiques vieillissent au même rythme que leurs lecteurs, quelque part. On va les trouver avec plus âgés, etc. Et c'est très intéressant. Une série que je conseille aux lecteurs hein, du Son des Bulles. Un one-shot, un très beau récit. Voilà, donc pour le conseil de lecture, je m'arrête là.
Et l'homme élastique est moins élastique.
Alors ça dépend. Alors peut-être, ouais. Peut-être, c'est un vieux caoutchouc. Ouais. Hein, des fois, ça peut péter. C'est ton jamais.
Un déambulateur. Voilà.
Alors je vous invite à découvrir, effectivement, c'est très intéressant. On croise un peu les histoires classiques des fantastiques, mais avec le vieillissement, ça engendre d'autres thématiques, d'autres choses très intéressantes dans la famille. Voilà,
très bien.
L'histoire de famille.
Bon, mais moi je regarde, j'ai jamais un copain gaulé pareil et une copine faite de la même façon. Hein. Je sais pas où ils vont les chercher. Mais...
Bah, l'homme de Caire, écoute.
Comment ça ? Enfin, je sais pas.
T'as bien vu, quoi.
Non, mais c'est du fantastique, c'est ça qui est extraordinaire. Eh ben, merci David.
Ah, merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Ça donne des envies, tout ça.
Alors,
on va faire les trois élastiques. Voilà, là, on attend Charles ou on passe à la rubrique suivante, hein, qui normalement devait nous faire sa chronique avec une vie de douceur, avec une BD incroyable. Charles, il retire feu. Eh ben, on va bien penser à lui. On ne sait pas où il est.
Gros bisous, Charles.
On espère que ça va. Donc, nous allons céder la patience, la parole à Olivier, donc multitâche, une BD et une actu, qui, je crois, a divisé sa rubrique en quatre éléments. Heureusement qu'on n'a pas fait les 101 dalmatiens. Je me suis dit, on ne serait jamais sorti. Donc, c'est un homme de partage. C'est ce que je dis aux présentations. Donc, vas-y.
Alors,
pour tout et
en fait, je vais faire juste la petite partie actu en 1 minute 30. Je voudrais bien que Joris parle aussi de son album.
Mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer.
Moi, il faut me couper. Le 17 septembre, il y a une péniche qui va partir de Talange, une péniche qui s'appelle le Baraka. Et sur cette péniche, on va retrouver plein d'artistes. D'artistes variés, des auteurs de BD, mais pas seulement, des poètes, des littéraires, etc. Et donc, c'est un festival qui s'appelle Les Passerelles, qui est organisé par l'association Karanouska. Et l'idée, c'est de faire déambuler cette péniche au fil de l'eau, de Talange à Talange, à faire une boucle en passant par Liverdun, par Pont-à-Mousson, par Metz, par Strasbourg. Ça va faire un petit tour en Allemagne. Et à chaque escale, il va y avoir une animation, des rencontres, des ateliers, etc. Et donc, c'est un festival qui est assez étonnant parce que, voilà, ça se passe sur une péniche, au rythme de l'eau, tout tranquille. La péniche, elle fait du 5 km/h, peut-être du 12 quand ils mettent le turbo. Mais voilà, c'est un rythme qui est apaisant. Les artistes restent sur la péniche quelques jours, d'une escale à l'autre, et travail, c'est quand même un peu une résidence. Et donc voilà, ce festival va s'arrêter à différents endroits. Le programme, on vous le mettra sur la page Facebook, sur nos réseaux sociaux, mais vous pourrez le trouver aussi sur le site de Karanouska, l'association Karanouska. On a aussi fait la rencontre de Marie-Hélène Brice, qui est la directrice de ce festival. Donc, elle nous en a dit beaucoup plus sur ce festival, sur cet événement. Sachez qu'en auteur de BD, on va retrouver Chloé Cruchaudet, qui va partir de Talange, je crois. Chloé Cruchaudet, qui était aussi dans Pigments, je crois, dans la caverne, pour peindre avec ses collègues.
C'est la seule fan, d'ailleurs.
Oui, avec une peau de bête, je ne sais pas trop.
Pas du tout.
Il y a Fred Bernard aussi. Fred Bernard, c'est un auteur que moi, j'aime beaucoup. Il fait des choses très, très jolies. C'est entre l'artiste et l'auteur de bande dessinée. Et Edmond Baudouin aussi, qui viendra faire un petit atelier. Je ne sais pas. Je sais que Chloé Cruchaudet et Fred Bernard seront à Liverdun et à Pont-à-Mousson. Donc, pas très loin de chez nous. On pourra aller les voir pour cette escale. Voilà pour ce festival.
Le premier festival, c'est la première fois. Quand t'as Edmond Boudouin, on peut le retrouver au Livre sur la Place.
Bah, exactement. Bravo.
Exactement. Bravo, François.
Non, c'est depuis 2017, je crois.
Ah oui.
Oui, oui. Alors, ça va évoluer parce que la péniche... Donc, ils ont acheté une péniche cette année. La directrice a même passé le permis de péniche, ou le pilotage de péniche, je ne sais pas quoi. Et vont évoluer, parce que pour l'instant, la péniche, on n'y va que pour l'escale, parce qu'on ne peut pas encore rentrer dedans. Il n'y a pas les autorisations, c'est tout nouveau, ils viennent de finir de peindre. L'année prochaine, il y aura sans doute les autorisations. On pourra aller dans la péniche directement pour visiter les expositions, etc. Et donc, ça va évoluer. Excellent.
Donc indépendamment de conduire, il y a les écluses, c'est pareil.
Oh là, la péniche fait 39 mètres, je crois.
Un peu plus petit qu'entre
les créneaux qui sont déficients.
C'est ça, pour les créneaux, c'est chaud.
Ah oui, non, mais c'est...
Voilà.
Bon, bah donc ça s'appelle Festival La Passerelle, de Talange à Talange.
Et par l'association Karanouska. Voilà. Autre chose ?
Oui, bah tu avais quelques... Mais vas-y, continue, poursuis.
Vas-y. Ah, c'est encore moi qui ai le micro. D'accord, oui. Alors, vous m'arrêtez... quand c'est plus mon temps. Oui. Parce que moi, j'ai prévu de faire un album par élément. Alors, je vais aller vite. Hein. Pour la Terre, j'ai choisi « Ce qu'il reste de nous » de Jacques Terpan, 2025, chez Futuropolis. L'idée, là, on est dans une généalogie, dans l'histoire d'un village, le village d'Austin, au pied du Vercors, là, dans la Drôme. Et on va suivre la généalogie, quelques personnages de la famille de Jacques Terpan, quelques moments de l'histoire de ce village. Et puis, voilà, des années 1000 jusqu'aux années 2025, jusqu'à maintenant, on va parcourir cette histoire de famille avec des petits bouts, des petits sauts dans le temps. Hein. Les années 1000, 1600, 1800, la Grande Guerre, etc. C'est un album qui est intéressant parce qu'on y découvre un petit peu de la vie familiale de l'époque, la vie campagnarde aussi. Voilà, c'est un dessin que je ne suis pas fan, mais je trouve qu'il colle bien au propos parce qu'on est dans des couleurs chaudes, dans des couleurs qui évoquent l'histoire, dans des couleurs qui évoquent la campagne aussi.
Et puis moi, BD suivante, vas-y.
BD suivante. Non, voilà. Non, mais moi, j'ai bien aimé parce qu'en gros, finalement, on arrive à se projeter parce qu'il y a des moments où on se dit, mais tiens, ça pourrait être notre histoire à nous aussi. Même si c'est une histoire un peu de Jacques Terpan, mais on pourrait se dire, tiens, mais là, au Moyen-Âge, ben, ça pourrait être mes aïeuls qui étaient là, dans cette maison, dans cette ferme, etc. On arrive à se projeter facilement, et je trouve que c'est un bon choix. Pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, c'est un bon album. De Jacques Terpan, ce qu'il reste de nous, Jacques Terpan, 2025, chez Futuropolis. Pour l'eau, j'ai choisi La Révolution des Algues. Étienne Le Croart et Vincent Doumeziel. Vincent Doumeziel, c'est conseiller principal pour les océans à l'ONU et fondateur avec le CNRS d'une coalition mondiale des acteurs de l'algue. Et oui, c'est important parce que La Révolution de l'algue, c'est pas un album comme ça de roman, c'est une vulgarisation scientifique. Étienne Le Croart, on le connaît, c'est un dessinateur de presse et d'albums un peu comiques. Et là, on parcourt l'histoire, enfin les algues, leurs bienfaits, et ce que ça peut nous apporter. Un petit exemple, par exemple. 40 grammes d'algues en poudre à une vache, la vache ne rote plus. Alors c'est important parce qu'une vache qui rote, c'est du méthane dans l'atmosphère. Le méthane, c'est du gaz à effet de serre. Mmh. Vous donnez 40 grammes de ces petites poudres d'algues à toutes les vaches du monde, il y a 80% de gaz à effet de serre en moins dans l'atmosphère. Ben, c'est comme si on arrêtait toutes les voitures d'un seul coup.
Mais c'est mieux qu'un bouchon.
Je crois que c'était d'autres émanations.
Non, figurez-vous que non, c'est le RO. C'est pas le P, c'est le RO. Et alors ça, on y va, quoi. Et on peut pas y aller, en fait, parce que c'est pas si simple que ça de mettre ça sur le marché. Il y a des normes, il y a des contraintes, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers, il y a des lobbies.
Y a des
donc, on peut pas le faire. C'est très dommage, parce que
là... attraper la vache, je veux pas dire. C'est pas ça.
Mais imaginez, les algues, c'est plein de vertus. C'est un truc formidable. Et on apprend tout ça dans l'album. Ça et d'autres choses. C'est extrêmement fourni. C'est très dense. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Mais c'est plein d'humour aussi, c'est pour ça que ça passe bien. On apprend en s'amusant. Donc je répète, Étienne Le Croart et Vincent Doumeziel pour La Révolution des Algues chez Futuropolis, c'est sorti cette année. Pour l'air, c'est facile, j'ai pris un album qui s'appelle Air de Philippe Pelez et Francis Porcel chez Grand Angle en 2023. C'est un monde post-apocalyptique, voilà, je l'ai dit, c'est une dystopie. L'idée, c'est que dans ce monde-là, l'air, elle est viciée. C'est une bactérie qui est arrivée dans l'air, on ne peut plus la respirer. On respire, on meurt. Du coup, ben, l'air est en bouteille. Et les bouteilles sont vendues à tout le monde, comme ça. Donc, si on veut sortir, on a sa petite bouteille, son gars, hop, comme ça, on va faire ses courses, etc. Du coup, l'État, pour une répartition, un accès à l'air équitable, gère ces bouteilles-là, la vente de ces bouteilles. Dedans, il y a, en parallèle, il y a un réseau terroriste qui essaye de polluer tout ça. Ouais. Et il y a un héros qui va essayer quand même de dynamiter le réseau. Mais ça ne va pas se passer comme ça, exactement. Philippe Heulès, c'est un super scénariste. Francis Porcel, c'est un super dessinateur. Et c'est un album qui est au top. En deux tomes, franchement, ça vous prend du début à la fin. Il y a le feu.
Ça s'appelle R, c'est le quatrième élément.
Il y a le feu. J'ai choisi. S'il y a le feu, il y a l'incendie. L'incendie, c'est les pompiers. C'est juste. Les pompiers. La série humoristique des gags en une page. La série des pompiers. Ouais. C'est une série culte de 2003 jusqu'à maintenant. 23 albums. C'est des gags en une page. C'est pour, si vous voulez vous bénéner. Et c'est un petit dédicace aux pompiers qui ont œuvré cette année de manière formidable et qui œuvrent toute l'année. Donc, messieurs les pompiers, merci beaucoup.
Bravo à vous.
Voilà.
Bravo Olivier. Du coup j'ai soif là, on te voit. Bon, bravo. Alors maintenant, last but not least, comme on dit, juriste.
Non.
Et oui. Juriste pour les mangas. Alors là j'ai essayé. Kimetsu no Yaiba.
Kimetsu no Yaiba, oui.
Voilà, c'est ça.
Demon Slayer, en anglais ou en international, c'est ça. Oui, parce que les quatre éléments, c'est beaucoup présent dans les mangas, hein, surtout comme dans les comics sous forme de super pouvoirs. Donc j'avais le choix dans ma bibliothèque, mais j'ai décidé, comme c'est la rentrée, d'y aller en douceur et de prendre un manga qui est très très connu. Donc publié de 2016 à 2020 en 23 tomes seulement. Hein, pour un manga, ça va, 23 tomes, comme les pompiers, justement. Et bien, Demon Slayer, c'est par le ou la mangaka Koyoharu Gotouge, parce qu'on ne connaît ni son identité ni son genre. Donc, c'est un auteur secret qui a donc écrit un manga qui, lui, n'est clairement pas secret. Parce que Demon Slayer, en juillet 2025, c'est un tirage total de 220 millions d'exemplaires, ce qui le classe 7e dans les mangas les plus vendus au monde. Un carton plein et un bel exploit quand on sait qu'il n'y a que 23 tomes. Et donc, c'est aussi avec son format manga, son animé, des films aussi qui sortent actuellement, mais des produits dérivés, c'est 2,6 milliards de recettes pour une franchise seulement en 2020. Donc je vous laisse imaginer maintenant en 2025, par exemple, juste pour le film Demon Slayer, ça a dépassé le chef-d'œuvre qui est Le Voyage de Chihiro de Miyazaki, dans les films ayant fait le plus d'entrées au Japon, donc Demon Slayer s'est classé premier. Donc un très grand engouement, hein. Mais pourquoi ? C'est quoi son univers et surtout l'histoire de ce manga ? Bah oui.
Pourquoi, Joris ?
Alors déjà, une époque. Ça se passe durant l'ère Taisho, donc l'ère Taisho au Japon. Pour vous donner une idée, ça se situe entre 1912 et 1926. Voilà, donc c'est moderne, mais pas trop à la fois. On n'est pas dans un Japon qu'on connaît actuellement, comme par exemple à Tokyo. Ensuite, un protagoniste principal, donc c'est Tanjiro, donc c'est l'aîné d'une famille qui est une famille marchande de charbon et dont le père est mort. Donc Tanjiro doit s'occuper lui-même de livrer le charbon dans les villes aux alentours depuis sa petite maison familiale dans les bois. Mais bien sûr, un élément perturbateur, sinon c'est pas marrant. Un jour, Tanjiro revient d'une livraison et découvre toute sa famille malheureusement tuée et décimée. Il suspecte évidemment un démon parce que les démons sont des créatures présentes dans cet univers, des mangeurs d'hommes. Toute sa famille est morte, enfin, toute. Non. Sa sœur, Nezuko, est encore vivante, mais malheureusement, elle s'est transformée en démon. Mince, comment faire alors si un membre de notre famille se transforme en mangeur d'humains ? Surtout qu'en plus, un pourfendeur de démons intervient et souhaite tuer la sœur de Tanjiro, car logique, c'est sa mission, c'est un pourfendeur de démons, tout est dans le nom. Et bien Tanjiro va arriver à convaincre ce pourfendeur qu'il est certain de trouver un moyen de faire en sorte que sa sœur redevienne humaine. Et voilà, on a la trame de tout le manga, comment faire pour que sa sœur ne soit plus un démon. Et pour cela, Tanjiro n'aura d'autre choix que de subir un lourd entraînement et de devenir lui aussi un pourfendeur de démons. Mais alors c'est quoi cette histoire de pourfendeur ? Bah oui, comme le manga se passe dans un monde où les démons sont présents, il existe forcément des humains chasseurs de ces créatures. Représentés comme des samouraïs, ils s'entraînent pour maîtriser ce qu'on appelle le souffle, donc qui est commun à la plupart des pourfendeurs de démons, qui constituent en une manifestation de leur puissance par une combinaison martiale de techniques, de respiration et d'épéisme. Donc c'est des mouvements, des techniques un peu comme de la danse qui permet de battre ces démons. Et c'est là qu'intervient nos quatre éléments, puisque le souffle originel, aussi appelé souffle du soleil, puisque le soleil est l'une des faiblesses des démons. Et bah depuis le soleil, ça découle plusieurs souffles, l'eau, la flamme, le vent et la roche, qui eux aussi font bien sûr découler d'autres éléments. Donc c'est comme un grand arbre généalogique avec le soleil en principal et les autres qui découlent. Et donc, par exemple, notre personnage principal va apprendre à manier celui de l'eau. Donc, ces éléments ne sont que des mouvements et des techniques pour les pourfendeurs, mais pour le lecteur, nous, ils sont représentés graphiquement. Ils sont véritablement dessinés. On le voit, par exemple, quand il utilise un mouvement de l'eau, des vagues, un peu comme la grande vague, hein, voilà, que tout le monde connaît. Oui, exactement. Par exemple, le souffle de la flamme, bah, on voit des flammes, voilà. Mais dans le manga, c'est une métaphore pour des mouvements de samouraï. Alors c'est magnifiquement bien dessiné, des éléments sont vraiment bien représentés avec un style un peu particulier. Donc le mangaka nous livre un scénario assez classique, mais pourtant rempli de comédie, de suspense, d'action, des super dessins. Si vous voulez de l'action, vous êtes servi. Pareil pour l'animé, hein, donc la série animée. Si vous voulez regarder, on n'a jamais eu une animation comme ça depuis très très longtemps. Ah oui. Et à l'époque où c'est sorti, ça a surpris et époustouflé tout le monde. Donc honnêtement, n'ayez pas peur de vous mouiller en lisant Demon Slayer. Je vous promets que vous ne vous brûlerez pas. C'est tout pour moi.
Oh bravo.
Oh, oh je
bravo.
Oh quelle finale. Oh oui, non, mais on va arriver à la fin de cette émission. Bah, moi, je crois que ça fait une belle entrée. Je trouve que on a bien parlé, bien échangé. Ouais. Il y a des ouvrages en tout genre qui font bien plaisir. On va reprendre un petit peu, mais déjà, on va remercier Nolwenn.
Merci d'être venu,
vraiment. Voilà, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à vous accueillir. Quelques rappels, donc, bah voilà, à l'MJC Lillebonne, Neufrène-Touron. Des festivals, des expos, il y en a toujours. N'hésitez pas à rentrer, à aller voir, à parler avec les gens qui sont là, notamment Philactère, par exemple, au Livre sur la Place. N'hésitez pas. C'est des rencontres à chaque fois. Merci aussi à nos partenaires, la parenthèse, le cahier bleu et puis le plus belle les bulles qu'on peut trouver sur Facebook, sur les petits posts que tu fais, Olivier, le livre sur la place. Et puis ben, on se retrouve le mois prochain sur une thématique que je ne vous dirai pas. Il faudra nous écouter pour le savoir. Ah, à bientôt. Merci,
Jean-Luc.
Au revoir.